Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, avez-vous remarqué qu'une vertu s'était cachée dans les textes de la messe d'aujourd'hui? Vous n'y trouverez même pas son nom, et pourtant, elle est partout. C'est la plus discrète des trois vertus théologales. Il faut dire qu'entre la foi, qui prend beaucoup de place, et la charité, qui rafle tous les premiers prix, elle est un peu éclipsée. Alors, parlons un peu de notre vertu d'espérance, la force tranquille de notre âme. Voyons d'abord comment elle met de l'ordre en nous, puis comment elle se développe. Enfin, quels sont ses ennemis? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Voilà ce que nous chanterons tout à l'heure pendant la communion. Notre Seigneur sait combien il est facile de se laisser emporter par le tourbillon de la vie, de se dépenser totalement dans la vie extérieure 6 jours sur 7, et de n'être finalement qu'un chrétien du dimanche. Aurait-il dit « Cherchez d'abord à vivre honnêtement, humainement parlant, famille, éducation, travail, et le ciel vous sera donné par surcroît. » Non. Il dit précisément l'inverse. Cherchez d'abord. C'est la priorité. Le verbe est actif. Voilà ce qui doit être notre préoccupation principale, le royaume de Dieu, c'est-à-dire le ciel, et sa justice, c'est-à-dire notre sanctification. Alors, le reste, qui est secondaire, même s'il est nécessaire à notre vie matérielle, le reste vous sera donné. Le verbe est passif, c'est-à-dire, je vous promets que vous ne manquerez pas du nécessaire si vous me donnez la première place dans votre vie. Le Seigneur nous rappelle ici que quand on projette de parvenir à un but, même si l'on ne l'atteint qu'à la fin, il est nécessaire de l'avoir présent à l'esprit dès le début, car c'est ce but qui déterminera tous nos choix. Le but de notre existence semble si lointain et nos journées sont si absorbantes qu'il est nécessaire de se le remettre souvent en mémoire, d'où la nécessité de la prière quotidienne, prière du matin, prière du soir. Et d'ailleurs, le terme n'est peut-être pas si lointain. Insensé, dit l'Évangile à un homme complètement absorbé par 1000 projets matériels, insensé, cette nuit même, Dieu te redemandera ton âme. D'où la nécessité aussi, périodiquement, de réaxer en profondeur notre vie sur la fin dernière, par une bonne retraite spirituelle. C'est nécessaire en particulier au moment des grandes décisions à prendre. Pour que ce réglage par notre fin ultime, qui est notre salut éternel, soit efficace, il y a une condition essentielle. C'est qu'il n'y ait pas une autre fin parasite. Autant essayer d'aller en même temps à 2 endroits différents, c'est impossible. C'est pourtant ce qu'essaie de faire notre cœur partagé entre l'amour des biens éternels et l'attachement aux choses qui passent. En nous donnant la vertu d'espérance, Dieu nous apporte le remède. Par la lumière de la foi, nous prenons conscience de la réalité du monde invisible et une nouvelle dimension s'ajoute à notre existence. Par l'espérance, cette nouvelle dimension ouvre de nouvelles perspectives. Elle nous dit que Dieu nous appelle à une vie infiniment supérieure, une vie surnaturelle, mais invisible, cachée, intérieure, spirituelle. Cette vie consiste à chercher Dieu et à se laisser attirer par lui. Car, nous dit l'espérance, Dieu se laisse trouver. Alors, cherchez d'abord à développer en vous la vie surnaturelle et le reste, la vie naturelle et ses nécessités, vous seront donnés par surcroît. Dieu se laissera trouver, mais il ne nous dit pas quand. Notre désir doit être éprouvé et éprouvé par le temps. Il serait faux de s'imaginer l'espérance comme une pure attente. L'espérance est une vertu produit des actes. Si Dieu nous laisse du temps, c'est pour produire des fruits. Le fruit de l'espérance, c'est l'accroissement de notre désir du ciel. Or, le désir, c'est ce qui dilate l'âme pour la rendre réceptive. Et Dieu nous remplira à la mesure de notre capacité. Alors, n'enfouissons pas dans la terre le talent de l'espérance en attendant passivement le retour du Maître. C'est le malheur, par exemple, de ceux qui vivent comme s'ils n'avaient pas reçu la grâce du baptême, se contentant de la vie matérielle, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Comme la Jérusalem de l'Évangile d'aujourd'hui, ils n'ont pas reconnu l'heure où ils ont été visités par la grâce. Viendra le temps d'une forte épreuve, et ce sera la ruine. Car les épreuves sont nécessaires, et le Seigneur nous les envoie pour nous contraindre à faire acte d'espérance. Plus l'épreuve sera humainement désespérée, plus l'espérance surnaturelle aura l'occasion de se fortifier, puisqu'il sera évident que Dieu seul peut nous aider, selon ses promesses. Ainsi, notre Seigneur promet aux futurs martyrs qu'il leur inspirera leur défense le moment venu. Où saint Paul, dans l'Épître d'aujourd'hui, rappelle que nous ne sommes jamais tentés au-dessus de nos forces. Un missionnaire en pays infidèle a pu témoigner de cela. Les païens l'avaient condamné à la flagellation. Au bout du 10e coup, la douleur était tellement insupportable que le courageux missionnaire, se sentant fléchir, lança vers Dieu ce cri du cœur. « Mon Dieu, je suis à bout. Si vous ne m'aidez pas, je cède et je suis perdu. » Instantanément, il ne sentit plus rien. Et il continua à recevoir les autres coups avec une joie intérieure extraordinaire. Dieu ne nous tente pas au-dessus de nos forces et il le fait pour notre profit spirituel. C'est pour notre plus grand profit qu'il nous a placés, nous, dans le monde et l'Église actuelle. Lui sait pourquoi. Pour nous, l'espérance nous suffit. Rien ne nous empêche de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. L'espérance nous dit qu'avec la grâce de Dieu, cette crise dans l'Église n'est pas une épreuve au-dessus de nos forces. Mieux, cette crise nous est bénéfique. Elle doit nous sanctifier. Alors l'espérance nous fait prier pour obtenir cette grâce qui nous fera rentrer dans le plan de Dieu. La collecte d'aujourd'hui nous rappelle que la bonne prière est précisément celle qui nous fait demander ce que Dieu attend de nous. Enfin, disposons-nous à affronter des situations pires. Nous n'avons pas encore touché le fond. Après tout, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Peut-être que le bon Dieu nous demandera, pour renouveler son Église, comme il l'avait demandé aux premières générations de chrétiens, de verser notre sang. S'il le veut, ça ne sera pas au-dessus de nos forces. Nous avons vu que la vertu d'espérance mettait l'ordre dans notre vie, ensuite qu'elle devait se développer spécialement dans l'épreuve. Voyons enfin ses deux principaux ennemis, le désespoir et la présomption. Le temps passe, l'éternité approche, nos péchés s'accumulent et nos efforts n'y font rien. Il y a de quoi se décourager. Au moins pour les choses de la terre, se dit-on, les efforts paient, pas besoin d'attendre si longtemps. Le résultat est tangible. Cherchons d'abord quelque chose de plus facile et de plus certain. Pour le ciel, on verra plus tard. Voilà l'amorce du désespoir. On commence par chercher en premier un bonheur terrestre. Puis on s'y attache et on finit par laisser tomber notre destinée surnaturelle. C'est que l'on n'a pas compris ce qu'était l'espérance chrétienne. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », dit notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous étonner d'avoir des échecs, alors ? Si nous n'y arrivons pas, c'est que nous ne laissons pas notre Seigneur commander en nous. Si notre activité humaine n'est pas surélevée par une vertu divine, comment pourra-t-elle parvenir au bonheur éternel de Dieu ? L'espérance surnaturelle sait cela. Elle sait que si l'homme doit faire tout ce qu'il peut pour mériter, c'est Dieu qui lui donne et de pouvoir, et de vouloir, et de bien faire. Par conséquent, l'espérance nous fait faire nos meilleures prières, celles que Dieu exauce. Elle nous fait prier droitement par rapport à la fin dernière et avec une confiance totale placée en Dieu seul. Si Dieu nous laisse souvent croupir dans notre misère, ce n'est donc pas pour nous faire désespérer, mais c'est pour réveiller notre espérance et nous faire produire la prière parfaite. La présomption est un autre ennemi de l'espérance, bien à la mode. Peut-être avez-vous déjà assisté à des obsèques dans la nouvelle église post-conciliaire. Il n'y a plus de purgatoire, plus de souffrance expiatrice, plus de détresse des âmes qui ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Il semble qu'on veuille nous dissuader de formuler la moindre prière pour les défunts. Cruauté inouïe quand on sait que c'est le seul moyen de soulager ces âmes. Mais non, on nous dit que le défunt est en paix, qu'il est entré dans la lumière, dans la joie du Père. Est-ce que dans la nouvelle Église, tous les fidèles seraient saints, à l'image des papes ? Jean-Paul II disait bien que si la damnation demeure une possibilité réelle, il ne nous est pas donné de connaître si des êtres humains sont effectivement concernés. Pensez à la dignité de l'homme, à la miséricorde infinie de Dieu. Voyons ce que répond saint Thomas d'Aquin. Il y a une présomption, dit-il, qui s'appuie d'une façon désordonnée sur la miséricorde et la puissance divine, ce qui lui donne l'espérance d'obtenir la gloire sans mérite et le pardon sans pénitence. Pareille présomption paraît bien sortir en ligne directe de l'orgueil. L'homme a de lui-même une telle estime qu'il arrive à penser que, même pécheur, Dieu ne peut pas le punir ni l'exclure de sa gloire. » Fin de citation de saint Thomas. Si le moderniste pêche par présomption, le traditionaliste est-il à l'abri ? Malheureusement non. N'aurait-on pas trop facilement tendance à croire que parce que nous avons la vraie foi et la vraie messe, notre salut est assuré ? Présomption que d'espérer obtenir la gloire sans mérite et le pardon sans pénitence, dit saint Thomas. Nous serons jugés non sur ce que nous savons, mais sur ce que nous aurons fait. Et le jugement sera d'autant plus sévère que nous en savions davantage. Pour conclure, dirigeons nos regards vers le ciel et écoutons saint Cyprien. Pour moi, le monde n'est rien. Ici-bas, je ne suis qu'un étranger et l'hôte d'un jour. De tous mes vœux, j'appelle le jour qui me rend à ma patrie, me tire de la terre d'exil, brise les liens du temps et me place dans le royaume des célestes félicités. Quel homme jeté sur des plages lointaines n'aurait hâte de rentrer dans son pays? Quel passager, impatient de revoir sa famille, ne désirerait ardemment un vent favorable afin d'embrasser plutôt ses bien-aimés? Le ciel est ma patrie, les patriarches sont mes pères. Pourquoi ne pas me hâter de revoir mon pays et saluer mes parents? L'âme attend une multitude d'êtres chéris. L'âme appelle une immense assemblée de pères, de frères, d'amis, d'enfants, assurés déjà de leur immortalité, mais encore plein de sollicitude pour mon salut. Pour eux et pour moi, quelle joie de nous revoir et de nous embrasser. Vers eux, frères bien-aimés, hâtons-nous d'arriver afin de les voir, eux et le Seigneur, le plus vite possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.